Indiscutablement, il a vécu les derniers mois de sa vie dans une grande angoisse qui lui était aussi dictée par la situation internationale. Indiscutablement, il a vu venir cette guerre, mais malheureusement, il n'a rien pu faire pour l'empêcher. Et il n'en avait pas les moyens et peut-être ni même la volonté, parce qu'il était quand même très affaibli. Il faut ajouter que Pidi n'était pas un diplomate, à la différence de son prédécesseur Léon XIII et de pratiquement tous ses successeurs. Il n'avait pas été formé dans le sérail, j'allais dire, de la diplomatie vaticane, et il n'avait pas beaucoup de goût pour ces choses-là. Et donc, une des caractéristiques de son pontificat, si je puis dire, a été précisément de désengager l'Église des affaires politiques au sens large. On voit d'ailleurs que le nombre des représentations diplomatiques auprès du Saint-Siège, comme d'ailleurs le nombre des nonciatures, a fortement diminué durant son pontificat. Donc il ne disposait pas des instruments, des moyens pour intervenir de manière efficace sur le plan diplomatique. Il s'est contenté au fond, et c'est le seul texte dont nous disposons qui concerne précisément la guerre, parce qu'il est mort au fond un mois après, à peine moins d'un mois après le déclenchement des hostilités. C'est un texte assez émouvant dans lequel il est adressé aux catholiques du monde entier, dans lequel il appelle à prier pour la paix, ce qui prévoit bien ce que sera cette guerre et les conséquences terribles qu'elle aura pour l'Europe. Il appartiendra d'une certaine façon à son successeur, Benoît XV, qui était élu au début septembre 14, de déterminer la stratégie du Saint-Siège dans le conflit. Et cette stratégie sera celle, comme on le sait, de l'impartialité, de l'impossibilité pour le pape de prendre parti. Parce qu'au fond, on trouve des catholiques des deux côtés. Mais c'était aussi une façon de permettre au Saint-Siège, alors vraiment sous le pontificat de Benoît XV, de tenter une action pour arrêter la guerre et pour créer les conditions d'une négociation qui aurait permis de mettre fin à cette horrible boucherie, comme l'a défini Benoît XV.
Alors, vous avez parlé d'un texte très émouvant, Doumé au repas. C'est une exhortation donc, qui a été publiée peu avant le déclenchement de la Première Guerre. Que sait-on de ce texte au final qui est fort peu connu ?
Pas grand-chose, en fait. J'avais moi-même étudié un peu ces archives. Je n'ai pas trouvé de documents qui permettent, au fond, d'en reconstruire la genèse. Ce qui est sûr, c'est que le Saint-Siège a été très, très, très préoccupé par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914, qui n'a pas manqué de manifester une certaine solidarité avec l'Autriche-Hongrie. Il est intéressant de noter le rapport qui est préparé par les services de la secrétaire d'État à l'intention du successeur de Pidis, donc Benoît XV. On parle, à propos des rapports avec l'Autriche-Hongrie, d'un rapport confiant et cordial. Et c'est le seul pays où l'on emploie ces termes pour caractériser ce rapport. Il ne faut pas oublier que le pape Sarto était né citoyen autrichien en 1835 dans sa Vénétie natale. Donc il y avait un rapport au moins sentimental, affectif, assez fort, en tout cas avec la dynastie des Habsbourg. Cela dit, la diplomatie vaticane a toujours fait preuve de grand réalisme. Et démontre le fait que à 4 jours avant la mort, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914, elle a signé un concordat avec la Serbie pour garantir précisément les droits des catholiques dans les territoires serbes. Et donc ne faisant fi en quelque sorte des droits qui étaient ceux de la couronne autrichienne comme puissance protectrice des catholiques dans ces territoires.
Alors, une question, est-ce que dans le jeu des alliances qui se créent très tôt entre les grandes puissances, est-ce que l'une ou l'autre des puissances belligérantes ont tenté justement d'avoir le pape Pie X à leur cause ?
Écoutez, la guerre se déclare quand même dans un contexte assez confus, avec une certaine rapidité, et le pape était déjà très affaibli, et comme je l'ai dit, n'avait pas un grand intérêt pour les questions diplomatiques, donc on n'a pas remarqué un activisme diplomatique particulier du Saint-Siège dans ces mois. Sinon, certaines déclarations, notamment du cardinal secrétaire d'État Méry Delval, qui vont dans le sens d'un soutien au moins moral à l'Autriche et à l'ultimatum qu'elle avait adressé à la Serbie à la suite de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à fin juin 1914.
Est-ce qu'on peut dire alors que la diplomatie vaticane a un peu failli sur ce dossier ?
Elle a peut-être manqué de réactivité, c'est certain, mais la situation du Saint-Siège n'était pas facile. Il se trouvait relativement isolé sur la scène internationale. au début de la guerre, pratiquement les seules représentations diplomatiques des pays européens étaient celles de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc cette situation ne permettait pas d'agir de manière très efficace. Le successeur, donc Benoît XV, cherchera d'être lui beaucoup plus actif, mais sans beaucoup plus de succès. Parce qu'au fond, la chose la plus étonnante, c'est qu'il n'a même pas été suivi, surtout d'abord par les catholiques eux-mêmes, qui se sont alignés dans les différents pays derrière leur gouvernement et pour défendre la patrie, etc. Donc on assiste à un développement d'un fort sentiment nationaliste dans les milieux catholiques contre lequel la papauté sera assez impuissante, il faut bien le dire.